Vous avez choisi le 106.1 de Bac FM et vous avez fait le bon choix. Je reçois dans le studio une double championne de boxe française, mais également championne de boxe anglaise. Devenue écrivaine et gagnante du Grand Prix de l'héroïne Madame Figaro, c'est également une femme de combat dans la cause des discriminations, entre autres, et du racisme ordinaire. Chers auditeurs, j'ai la chance de pouvoir m'entretenir avec cette femme forte aux valeurs à prendre exemple, cette femme si bien présentée par un certain Akhenaton.
Née en 1978 à Paris, fille d'émigrés maliens, son destin est marqué par plusieurs drames familiaux qui la poussent très jeune à prendre la vie à bras le corps. Elle en témoigne par l'écriture de Dambé, un récit qui signifie dignité, publié en 2011 et remarqué par la critique. En 1999, Aya Sissoko domine sa catégorie en obtenant les titres de championne de France et championne du monde de boxe française amateur. Elle confirme son titre de championne du monde de boxe française en 2003, faisant preuve d'une technique remarquable et d'une farouche volonté de vaincre. Elle est au sommet en 2006, quand elle décroche toujours dans la même catégorie des poids welter de boxe amateur anglaise, à la fois le titre de championne de France et celui de championne d'Europe à Varsovie. Le 22 novembre 2006, à New Delhi, en finale du championnat du monde de boxe amateur, elle bat l'Ukrainienne Oleksandra Kozlan. Ce jour-là, Aya Sissoko s'impose au niveau mondial.
Bonjour Aya.
Bonjour.
Comment ça va?
Très bien.
Alors vous êtes ici car vous êtes entretenu avec des jeunes lycéens sur plusieurs thèmes liés à la discrimination dont le racisme ordinaire. C'est quoi le racisme ordinaire?
Le racisme ordinaire, c'est celui qui s'exprime dans les situations les plus anodines du quotidien. Vous êtes dans une salle d'attente et une femme va s'adresser à vous, mais vous lisez ça, vous, parce que vous avez entre les mains un livre de Stefan Zweig. C'est être dans le métro, c'est se faire insulter de sale négresse. Enfin voilà, c'est un racisme qui s'exprime dans les situations les plus anodines du quotidien, alors que vous n'avez strictement rien demandé.
C'est avoir un petit ami et quand on arrive dans sa famille, sa maman dit elle est très noire, par exemple.
Oui, elle est.
C'est ça.
Ah, elle est quand même noire.
Ouais. C'est un exemple que vous donnez dans le livre qu'on reviendra dessus tout à l'heure. Comment on s'adresse à des étudiants pour leur expliquer un thème aussi fort, aussi précis?
Alors moi, mon premier objectif, c'est aussi leur donner de la parole. C'est que l'échange doit être véritablement interactif. Je pense que partir justement d'expériences personnelles, individuelles, est un bon début. C'est-à-dire que voilà, chacun témoigne de ce qu'il a pu rencontrer, subir. Et ensuite, on développe. Enfin, on essaie d'être un peu plus précis sur les différents termes qui expliquent le racisme, que ce soit historique, sociologique, etc.
Ça a été le cas de certains étudiants de donner un exemple personnel qu'ils ont vécu?
Il y a une jeune fille, il y a un instant, qui disait que elle avait un petit frère, donc qui avait hérité des caractéristiques réunionnaises, et que sa mère décide de poser sur sa table une photo le représentant, et que un collègue va passer en disant c'est qui ce bougnoule?
C'est un des thèmes de votre nouveau livre qui s'appelle « Au nom de tous les tiens ». Vous évoquez notamment des thèmes comme l'exil, le devoir de mémoire, la transmission, l'héritage, je ne me trompe pas.
C'est tout à fait ça.
C'est votre histoire, en fait, que vous racontez dans ce livre très intime, d'autant plus que vous le dédiez à votre fille. Est-ce que c'est essentiel aussi de savoir, c'est ce que vous lui expliquez dans le livre, de savoir d'où l'on vient?
Pour moi, de toute façon, c'est essentiel. C'est-à-dire qu'un enfant ne peut pas se construire harmonieusement sans la connaissance, justement, de ce passé, de cette filiation. Et puis, c'est aussi lui permettre, en fait, arriver à un certain âge, de s'en détacher si elle en a envie. C'est-à-dire que moi, je l'arme, je la nourris de connaissances diverses, et ensuite, c'est à elle de faire le choix qui lui correspondra le mieux.
Il y a une certaine démarche de mémoire familiale aussi, un petit peu?
Bien évidemment, c'est-à-dire que tes aïeux ont existé, ils ont résisté aussi, et ils ont fait des choses formidables, extraordinaires. Et c'est cette volonté de les réhabiliter et d'élargir la figure du héros et de l'héroïne.
On l'écoutait tout à l'heure dans la présentation d'Akhenaton. Votre jeunesse, elle a été marquée par de nombreux événements. Vous avez une jeunesse qui vous a forgé aussi et qui est peut-être aussi en lien avec la boxe que vous avez pratiquée.
Clairement, les drames qui sont intervenus dans mon enfance ont participé à faire celle que je suis aujourd'hui. La boxe a été un formidable outil, enfin, d'expression, enfin, de cette colère, de ma colère, ben, qui est née, suite à la mise à mort de mon père.
Vous avez commencé la boxe à 8 ans.
J'ai
et
commencé la boxe.
C'était dans cette période-là.
Oui,
en fait.
suite à la disparition de mon père et de ma petite sœur. Et donc, il fallait extérioriser cette colère, enfin, le poids de l'injustice que l'on fait porter sur les épaules d'une enfant. Et donc, oui, ce sport a été un formidable outil pour exprimer tout cela. Et l'écriture est venue prendre le relais par la suite.
Il y a une phrase qui revient beaucoup dans votre livre, c'est la phrase « être un enfant ne protège pas ». Ça veut dire quoi ?
Tout simplement parce que le racisme conditionne les vies qui sont celles de nos parents et donc par extension aussi les nôtres. C'est-à-dire que quand on est pauvre et quand on appartient à un groupe minoritaire, on ne choisit pas notre lieu d'habitation. Par conséquent, on ne choisit pas non plus les écoles dans lesquelles vont se rendre nos enfants. On ne choisit pas le métier que l'on va occuper. Et donc, ma mère, finalement, a dû tenir bon face à tout cela et elle en est morte prématurément parce que le travail difficile use les corps, use la tête. Et donc, pour en revenir justement aux politiques, dire que on va reculer l'âge de la retraite à 65 ans, c'est ne pas prendre en compte les existences, les trajectoires des personnes les plus précaires de notre société.
C'est ce que vous dites aussi, que votre maman n'avait seule avec que le boulot pour se démarquer, que le travail pour se démarquer.
Que sa force de travail pour s'en sortir.
Et vous avez eu aussi un moment de votre vie un petit peu honte de votre maman.
J'ai eu honte de ma mère parce qu'elle ne répondait absolument pas à la norme. C'est-à-dire qu'elle était noire, elle était analphabète, elle s'habillait en boubou. Elle ne parlait pas la langue et donc pour moi ressembler justement à cette norme blanche qui prenait tout l'espace, qui occupait tout l'espace, c'est-à-dire que nos histoires, les figures comme celle de ma mère n'existent absolument pas dans la narration collective et donc on subit cette injonction à l'assimilation, à l'intégration. Qui est totalement ridicule dans le sens où on est sur le sol français et qu'on est français, mais surtout c'est que ça abîme les enfants, ça abîme psychologiquement, c'est-à-dire qu'on est dans une situation qui est totalement schizophrénique. C'est qu'on nous dit intégrez-vous à la France, mais à côté de ça rejetez tout ce qui vous est transmis par vos parents, alors que les deux ne sont absolument pas incompatibles, les deux peuvent cohabiter pacifiquement ensemble.
Et ça implique de nombreuses conséquences qui rejoignent aussi cette phrase, moi je la trouve très forte, je n'ai pas su immédiatement que j'étais noire.
Non, parce que...
Et on parle pas du physique, on parle de toutes les conséquences qui peuvent entraîner derrière, sociales, culturelles et scolaires aussi.
Psychologiques, scolaires, etc. Et donc c'est vraiment le fait de m'arrêter, de regarder mon histoire en face. Et là, je me suis rendu compte de toutes les de toutes les épreuves qu'avait dû traverser ma mère, mon père et nous-mêmes. Mais oui, donc ça a pris du temps de me rendre compte, ce qu'impliquait d'être noire dans une société française.
Et qui est en cause de tout ça, à votre avis ?
On appartient à une institution qui est structurellement inégalitaire et donc le politique a une incidence toute particulière justement sur les vies des personnes non blanches. Comme je vous le disais d'interview, le politique décide de l'arrivée de mes parents sur le territoire hexagonal, c'est-à-dire que le Mali est une ancienne colonie française, la France a besoin de bras dans la après-guerre, et donc elle fait venir les hommes, tout comme le politique a une responsabilité dans l'arrivée de ma mère en France au milieu des années 70, parce que en pleine crise économique, donc en 1974, on décide de fermer les frontières, et donc les hommes, de peur que de ne plus pouvoir circuler, donc les entrées d'argent ne se fassent plus, décident de faire venir les femmes dans le regroupement familial, de la même manière que le politique va décider de notre lieu d'habitation, des écoles que l'on va fréquenter, etc.
Vous avez vécu
etc.
Parce que vous êtes né à Paris.
Alors moi, je suis né à Paris dans le 20e arrondissement, à proximité du Père Lachaise. Donc, quand on arrive, on vit assise dans 20 mètres carrés. Ensuite, suite à l'incendie, on va emménager dans une cité, du 20e arrondissement, une cité qui est compliqué, et donc les individus se démènent comme ils peuvent au quotidien pour réussir à garder leur dignité, et ça va être comme ça jusqu'à ce que j'arrive à me construire un avenir, en tout cas matériel, plus serein maintenant.
Et un parcours très atypique aussi, puisque vous avez été championne de boxe à plusieurs reprises. Et puis, à 28 ans, vous avez décidé de reprendre les études, et pas n'importe lesquelles, Sciences Po, pour des études très, très précises, pour devenir écrivaine. C'est une preuve de détermination, de force et de courage aussi. Et pourtant, vous n'aimez pas cette phrase qui dit « quand on veut, on peut ».
Mais parce qu'elle est totalement injuste, et puis c'est aussi déresponsabiliser le politique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on fait porter la charge de la responsabilité sur le dos des individus, en fait, le politique n'a plus rien à faire pour corriger justement ces inégalités structurelles que je dénonce et que beaucoup d'autres dénoncent.
Oui, on reste dans la démarche du système scolaire qui est clairement pas égalitaire, en fait.
Ah, mais il est clairement pas inégalitaire, comme je disais. Le fait d'occuper tel ou tel établissement, déjà, commande déjà beaucoup pour ce qui est de votre trajectoire scolaire. Enfin, moi, je lisais récemment une étude où on disait qu'entre la sixième et la terminale, dans certains quartiers populaires, des élèves perdaient un an d'études à cause de profs non remplacés. Donc, il faut véritablement une volonté politique pour tendre vers toujours plus d'égalité.
Cette envie que vous avez eue de reprendre les études et donc finalement d'emmener à une reconversion professionnelle, on peut appeler ça comme ça, c'est aussi parce que la boucle était bouclée dans la boxe et vous aviez besoin de nouveaux objectifs, de nouveaux challenges, on peut dire.
Alors bon, déjà parce que j'ai interrompu ma carrière de boxeuse, contrainte et forcée, j'ai eu à subir une très très grave blessure. Mais à côté de ça, reprendre mes études, c'était vraiment quelque chose qui était voulu. Parce que le fait est aussi que il est très difficile en France de faire cohabiter sport de niveau et études. Et moi, dans un premier temps, j'avais décidé de faire un bac plus 2, donc un BTS, qui me permettait de rentrer tout de suite sur le marché du travail. Et donc oui, à 27-28 ans, je reprends mes études, et puis pour le mieux, parce que ça a été une aventure extraordinaire et ça m'a ouvert de merveilleuses opportunités professionnelles.
La boxe vous a servi dans ce moment-là et même dans la vie de tous les jours?
Oui, ça m'a énormément servi, parce que de toute façon, la boxe vous apprend à résister, la boxe déjà vous apprend à vous connaître intimement, c'est-à-dire vous savez, les forces qui sont les vôtres, vous apprenez le dépassement de soi, le fait de connaître son corps, d'être dur au mal. Voilà, c'est une aventure intime et collective très très qui est extraordinaire, la boxe.
J'ai une dernière question, Aya, de quoi vous avez peur?
De quoi j'ai peur? Moi, j'ai peur pour ma fille. J'ai peur pour l'avenir. Le fait que un parti d'extrême droite fasse 42%, qui plus est pour quelqu'un qui a une peau qui parle pour elle, pour moi ça ne me rassure absolument pas. Pour moi, c'est même inconcevable qu'un jour, la France puisse basculer...
On n'en a jamais été aussi proche.
On n'en a jamais été aussi proche. Et à côté de ça, l'histoire aussi nous prouve que c'est possible.
Merci beaucoup, Aya, de nous avoir accordé de votre temps sur BAC FM. C'était un plaisir. Au nom de tous les tiens, c'est son troisième ouvrage que vous pouvez retrouver en librairie ou sur Internet dans les lieux de vente habituels. Nous, c'est le meilleur du son pop-rock qu'on retrouve tout de suite avec Midnight Hall. À demain.